Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et l'émission de cette semaine sera consacrée à la question de l'autisme. Où en sommes-nous en France en 2024 ? Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui a eu lieu le 2 avril et qui est une initiative qui existe depuis 2008. Et pour évoquer avec nous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Florent Chapelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais d'abord vous présenter comme étant un acteur de la prise en charge, d'une meilleure prise en charge et d'un accompagnement des personnes qui souffrent de syndrome autistique. Vous êtes vous-même parent d'un enfant autiste et surtout vous êtes à l'initiative de la création d'une plateforme Autisme Info Service dont vous êtes, je crois, toujours coprésident avec le cofondateur qui était Samuel Le Bénian, n'est-ce pas ?
Qui n'était pas, qui est toujours.
Qui est toujours, pardon.
Et depuis 5 ans, les présidents de cette plateforme, lui et moi, et on s'en occupe bien. Et j'ai envie de dire que malheureusement, elle se développe. C'est-à-dire qu'on l'a créée parce qu'il y avait des besoins. Et plus on avance, plus on se rend compte que des gens nous contactent. Et sur 5 ans, ce sont 43 000 personnes qu'on a aidées directement par téléphone ou par mail. C'est colossal. Beaucoup de gens s'interrogent sur le parcours, les questions juridiques, administratives, l'accès aux soins, l'accès aux professionnels qualifiés. Et c'est ce que l'on fait, nous, à temps plein, à la plateforme, avec 7 personnes à temps plein à la plateforme.
Alors, pour être complet, il faut que je précise aussi que vous avez rédigé un ouvrage, Autisme, la grande enquête, avec Sophie Le Callennec, aux éditions Les Arènes. Et finalement, vous racontez votre parcours, vous dites, au-delà du fait que vous êtes vous-même concerné, vous considérez, ou vous considériez peut-être toujours, en France, il y avait comme un retard dans la prise en charge, l'accompagnement, et vous citez toujours ce chiffre, il y a quelques années, je pense, de 80% d'enfants qui n'étaient pas scolarisés en milieu normal.
Exactement, et je disais également en 2016 qu'on avait 40 ans de retard. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours 40 ans de retard ? Non, je ne pense pas. On a rattrapé un peu de ces 40 ans. Mais est-ce qu'on a toujours du retard ? Oui, et ça, je le partage avec la délégation interministérielle à l'autisme. Ils sont d'accord avec moi, on a encore beaucoup de retard sur le territoire. On a pris ce retard au siècle dernier, ça a commencé dans les années 70-80, alors que les Américains, les Anglais, l'ensemble de l'Europe est en train de se mettre à des méthodes, ce qu'on appelle comportemental, qui était efficace et qui permettait aux enfants de gagner en autonomie, de gagner des points de QI, d'arriver à travailler, à avancer à l'école, d'où on est resté dans une approche culpabilisante de la mère, issue de la psychanalyse du début du 20e siècle. Et on a continué dans les hôpitaux et ailleurs à expliquer aux mamans que c'était de leur faute et qu'il fallait les séparer de leur enfant. Ça, c'est fini. Enfin, c'est fini en partie. Depuis 2010, la Haute Autorité de Santé, qui est la plus haute juridiction française en matière de recommandations et ils posent les constats les plus solides, scientifiquement les plus robustes, ils ont dit que l'autisme était un trouble neurodéveloppemental. C'est en partie génétique. Et donc, quand l'enfant naît avec un fonctionnement, un fonctionnement atypique, on va dire, il faut accompagner cet enfant, le mettre à l'école, justement. Et à l'époque, le constat que j'avais fait, c'est que les enfants n'y allaient pas. 80%, c'était 80 000 enfants qui n'allaient pas à l'école à l'époque. Aujourd'hui, le chiffre est bien moindre. Il a dû être divisé par 6 ou 7. Mais il y a encore une bonne dizaine de milliers d'enfants qui cherchent des places et plusieurs milliers qui ont des accompagnements très partiels. Et ça les surhandicap. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes d'orthographe et que vous n'avez qu'une heure de français par semaine, vous serez encore plus mauvais à la fin de vos études. C'est pareil. Si vous êtes autiste et que vous avez très peu d'accompagnement, les années vont passer et vous serez encore plus handicapé, j'ai envie de dire, à l'âge adulte. Donc il y a vraiment une urgence à avoir du personnel et formé pour que les enfants puissent progresser. Parce qu'un enfant autiste n'est pas condamné à finir attaché à un radiateur. Il peut faire des choses, à passer son permis. Et au lycée en ce moment, là il est en vacances et il doit faire du jet ski. Donc vous voyez, il grandit, et ils doivent grandir parmi nous et avec un accompagnement adapté. En revanche, si je n'avais rien fait, on en serait condamné à finir à l'hôpital.
Parce que finalement, c'est pour ça que vous vous êtes d'abord battu sur la question scolaire, parce que effectivement, comme pour les autres enfants, finalement, c'est dans les premières années de la vie, en particulier dans la formation cognitive de l'enfant, que tout se joue. Et si on rate cette possibilité d'offrir un cadre apaisant, bienveillant à l'enfant, et bien comme vous dites, ça finit finalement dans un milieu médical.
Exactement. Et vous dites apaisant, bienveillant, je dirais plutôt stimulant. Il faut les entraîner. Leur cerveau ne fonctionne pas de la même manière que les autres. Alors on peut estimer qu'ils sont différents et puis on les laisse comme tels. Enfin, quand un enfant s'automutile et n'arrive pas à communiquer avec ses copains, je pense qu'il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut l'aider. Il faut l'aider à communiquer, il faut l'aider à surmonter son handicap. Même si dans certains cas, c'est une différence et c'est une chance. Mais quand ça devient handicapant, justement, dans ces cas-là, il faut essayer de corriger le tir. Donc, c'est avec plus d'heures d'école. En général, on dit, ils ont du mal à aller à l'école, donc on va leur mettre 5 heures. Non, tout démarre de là. À 2 ans, 1 an, 3 ans, il faut les surentraîner pour qu'ils deviennent des champions.
Et il a fallu aussi mener ce combat-là avec l'éducation nationale. Ça n'a pas dû se faire non plus.
Non. Ah non.
Spontanément, on imagine bien la lourdeur, la complexité, la manière dont il a fallu peut-être soulever des montagnes parfois.
Oui, alors ça c'était la loi de 2005 qui a un peu tout changé. La loi de 2005 a acté le fait que tous les enfants devaient aller à l'école. Mais entre une loi et son application, vous savez, parfois il se passe des années. Là, on est quasiment 20 ans plus tard, ça sera l'année prochaine, les 20 ans de la loi de 2005. Et il faut constater que l'accompagnement parfait à l'école, on en est encore loin. Alors l'école au début résistait par principe. Hein. Elle disait que oui, pourquoi pas, mais pas chez elle. C'était trop difficile. Il valait mieux qu'ils aillent en IME, donc en institut médico-éducatif, qu'à l'école ordinaire. Et nous, on a poussé les portes. Finalement, quand ils arrivent à rentrer, ça se passe bien. Ça se passe par du temps très bien. Et les écoles, en général, ils tirent un bénéfice collectif. Aider les plus fragiles, c'est aussi s'aider soi-même. Donc c'est un vaccin contre l'exclusion et petit à petit, dans l'éducation nationale se transforme. Alors lentement, on sait que c'est une grande maison, pour pas dire autre chose, mais petit à petit, c'est en train de se faire. Mais j'ai envie de dire que le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est plus tant le dépistage précoce, même s'il y a encore besoin de faire beaucoup, c'est plus tant l'école, même s'il y a encore besoin de faire énormément. C'est l'âge adulte, c'est-à-dire quand ils arrivent à 16 ou 18 ans. Alors là, on arrive là dans un no man's land, il n'y a rien. L'emploi des personnes handicapées, c'est rare. Il y a quelques expériences, comme l'expérience d'Androte, avec son programme qui fait travailler autrement, ou une autre dont vous avez parlé avec M. Tran, mais ils sont traiteurs, mais sinon, c'est assez rare sur le territoire. Il y a les cafés joyeux aussi, mais vous voyez, ce sont des initiatives avec 50, 100, 200 personnes. C'est pas 500 000 autistes qui travaillent. Aujourd'hui, 95% des autistes ne travaillent pas. Donc il faut absolument changer ça. Parce que s'ils vont à l'école, ça coûte moins cher que l'hôpital. Et si après ils travaillent, ça coûte moins cher que l'hôpital. Donc il faut absolument leur ne serait-ce que par dignité, parce que c'est un droit de vivre comme les autres. Mais il faut leur donner une trajectoire de vie correcte.
De ce point de vue-là, il n'y a de toute façon pas suffisamment de place dans des ESAT ou dans des structures qui sont, un encadrement adapté aux personnes qui souffrent de différents types de handicap psychique. Probablement, c'est peut-être même pas d'ailleurs ce que vous souhaitez.
Oui, c'est très bien dit ce que vous dites. C'est ça, il ne faut pas forcément créer des structures à côté des structures. Alors il faut adapter les structures, les aider à devenir accueillantes et stimulantes, mais il ne faut pas toujours recréer des choses à côté. Ça coûte plus cher d'envoyer un enfant au fin fond de la Lozère dans un établissement, ça coûte 50 000 euros, alors qu'avec 15 ou 20 000 euros, parfois il a un accompagnement adapté dans un établissement avec un encadrement.
En milieu ordinaire.
Oui, tout à fait, ordinaire. Le mot, c'est ordinaire, vous le dites. Ils vivraient en dehors du monde. On le voit chez Café Joyeux, ils ont des salaires, ils ont un environnement de travail agréable, et ça se passe bien. Donc, pourquoi vouloir absolument les mettre à l'extérieur? Donc, après, quand ils ont vraiment des surhandicaps, c'est très, très difficile. Parfois, il leur faut des structures à côté. mais arrêtons de les mettre au fin fond de la Lozère.
Mais ce que vous dites pour l'emploi, ça vaut aussi, par exemple, pour le logement. On imagine bien que c'est pas évident c'est déjà pas évident quand on est un jeune salarié de se loger, en particulier dans certaines régions. On voit se développer d'ailleurs aussi des structures de type cohabitation inclusive,
habitat partagé
qui semble très adapté pour justement mélanger des publics ordinaires avec des gens qui sont porteurs de handicap mais qui du coup y trouvent un lieu assez adapté finalement.
Alors oui, une petite précision, l'habitat partagé c'est pas trois personnes ordinaires avec trois personnes atypiques, c'est six personnes atypiques ensemble mais qui partagent un lieu de vie avec des salles communes, etc. Mais ce sont des petites unités au centre de la ville. En ce sens, c'est très inclusif. Après, si vous me parlez de programme avec mix, ça existe peut-être aussi et je le souhaite. Hein.
Ça existe.
J'avoue pas bien connaître. Mais des petits programmes de logement adapté, bah, comme fait Andros, une dizaine de personnes qui habitent ensemble, qui grandissent ensemble, qui partagent des moments de vie. Par contre, il y a un éducateur qui surveille, du gardiennage la nuit. Vous voyez, il y a un petit côté hôtelier, il y a du monde autour. Mais ce sont des instituts médico-éducatifs light, c'est-à-dire ce sont des structures très light par rapport à vraiment l'IME médicalisé. Là, on est sur des structures où finalement on a besoin d'un gardien, d'un éducateur dans la journée pour vérifier un peu de ménage. C'est léger. Et là, pour le coup, les jeunes qui deviennent moins jeunes vivent ensemble, mais ce sont des petites structures. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils soient à 4, 6, 8, pas 200, 300. Parce qu'aujourd'hui, le modèle, c'est 300 personnes ensemble. 300 personnes ensemble, certaines ont des troubles du comportement, ça provoque des comportements inadaptés en général. Alors que quand ils sont 4 ou 5, qu'il y a un ou deux éducateurs autour d'eux et qui sont en cœur de ville, au contact des autres, on corrige bien les comportements.
Dernière question, et je vous demanderai une réponse relativement courte parce que malheureusement c'est déjà bientôt la fin de notre entretien. Si vous aviez encore vis-à-vis des pouvoirs publics, on a parlé de la loi de 2005 tout à l'heure, il y a aussi des parlementaires qui régulièrement font des rapports, s'expriment sur le sujet. Si vous aviez une attente, une décision politique ou administrative qui irait dans la bonne direction par rapport au combat que vous menez, ça serait laquelle?
Alors, s'occuper des cas les plus difficiles, il y a encore des mamans, parfois des papas, qui sont sans solution, avec des enfants qui eux ont des troubles très sévères, des polyhandicaps, et il faut vraiment arriver à ce que ces femmes ne craquent pas et qu'on n'arrive pas au pire, parce qu'il y a encore plusieurs milliers de personnes sans solution et il faut en trouver. Après, pour le flux, j'ai envie de dire, pour les 700 000, c'est ce que je viens de dire, hein, il faut des parcours moins compliqués et plus inclusifs, mais pour les 10, 20, 30 000 qui ont besoin vraiment de solutions très adaptées, il ne faut pas hésiter à les aider, parce que c'est atroce pour ces femmes et ces hommes.
Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité en parler dans l'émission, parce qu'on sait que c'est des sujets qu'on n'évoque pas tous les jours dans les médias, évidemment, mais c'est aussi parfois en parlant qu'on lance des messages ou qu'on fait prendre conscience aux gens qui sont dans des situations et qui peuvent, auprès de votre plateforme Infoservice, trouver des bons conseils et des aides adéquates. On vous remercie beaucoup, Florent Chapelle.
Merci. À bientôt, j'espère.
Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et comme chaque année, dans le cadre de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, on a décidé cette semaine d'évoquer le sujet avec des acteurs engagés, avec des gens qui vivent personnellement, professionnellement, une expérience dans la volonté de renforcer l'inclusion des personnes qui souffrent de troubles autistiques. Et dans cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Tran. Bonjour.
Bonjour.
Alors Olivier, vous êtes président, fondateur de Biscornu, qui est un 13h, mais Évidemment, si je dis ça comme ça, nos auditeurs vont pas forcément comprendre le lien avec notre sujet. Et pourtant, vous êtes au cœur du sujet et c'est pourquoi j'ai voulu, et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, j'ai voulu que vous puissiez venir raconter un petit peu votre histoire personnelle, mais surtout l'histoire de Biscornu.
Oui, très bien. Écoutez, avec joie, merci beaucoup de l'invitation et de mettre en lumière un peu ce projet. Mon témoignage est celui d'un papa d'un enfant qui est autiste sévère, Alexandre, mon fils Alexandre, qui ne sait pas parler, ne sait pas lire et ne sait pas écrire et qui a quitté l'école à la fin de la primaire. Il est en classe Ulysse et puis le chemin s'est arrêté à la fin de la primaire, à l'âge de 14 ans, puisqu'il n'y avait pas de suite à l'école, ça on pouvait l'attendre. Et il n'y avait malheureusement pas non plus de suite possible dans des structures spécialisées pour l'accueillir. Et c'est là où ça a dérapé un peu familialement, puisque notre enfant a commencé à regarder des vidéos de suicide. Et moi, j'avais une carrière dans un groupe international, dans l'industrie de l'aluminium. Et j'ai quitté cette carrière pour essayer d'offrir un avenir, enfin de construire un avenir plutôt, à mon fils, mais aussi à tous les jeunes porteurs de handicap, d'autisme en particulier, mais pas que, à tous ces jeunes qui sont un peu laissés pour compte de cette société. Alors voilà, donc j'ai créé Biscornu et j'ai créé une autre structure qui s'appelle AFUD, qui les forme à plusieurs métiers.
Alors on en parlait avec mon invité précédent, Florent Chapelle. On a beaucoup parlé du sujet de l'inclusion scolaire, des freins qui restent encore, même si Florent Chapelle nous disait que les choses se sont quand même nettement améliorées au niveau de la prise en charge, notamment par l'éducation nationale et de l'inclusion scolaire. Mais par contre, nous disait-il, le point difficile, ça reste quand même après la scolarité, si tant est qu'on ait réussi à faire intégrer son enfant en milieu scolaire. Le gros point noir, c'est effectivement le pas vers l'insertion, vers l'emploi, pour faciliter l'autonomie de celles et ceux qui, évidemment, sont en capacité de travailler. Mais finalement, il dit, le problème, c'est que le monde professionnel n'est pas souvent en capacité d'accueillir ce type de profil.
Oui. Alors, je confirme que ça fait partie un peu de notre société actuellement, d'avoir un regard bienveillant sur la différence et de pouvoir l'accueillir, l'accepter et travailler avec. Donc, ça crée de l'exclusion sans que personne ne veuille exclure ces personnes porteuses de handicap cognitif et mental. L'autisme en faisant partie, mais c'est indéniable que, en fait, tout au long de la scolarité, tout au long de l'éducation et de nos formations et de nos expériences en entreprise, on est assez codifié. Donc chacun d'entre nous a une façon de fonctionner qui va correspondre à ce que souhaite un peu la société, le comportement, la façon de s'organiser, de fonctionner ensemble. Et quand on a des personnes qui ne cadrent pas avec ce mode de fonctionnement collectif habituel, on a du mal à se demander, à se poser la question de comment on peut faire pour fonctionner peut-être différemment, mais avec ces gens-là. Donc ça, c'est sûr que d'un point de vue professionnel, dès lors qu'on va intégrer des notions économiques, de rendement, d'efficacité, dès lors que ça va sortir un peu du sentier battu, du rouage un peu mécanique habituel des entreprises, ça va être considéré comme étant difficile. Donc c'est tout un chemin d'apprentissage sur déjà le regard qu'on a avec la différence, sur la différence, et puis l'accompagnement également dans les organisations, dans les entreprises et avec chaque employé, chaque personne qui va être en contact, possiblement avec des porteurs de handicap, de pouvoir montrer un chemin possible qui est différent de celui qu'ils appliquent au quotidien.
Alors, c'est un long travail. Alors, de ce point de vue-là, ce que nous disait aussi Florent Chapelle, c'est que c'est vrai que la société aujourd'hui, elle a quand même, les mentalités ont évolué. On ne traite plus les personnes porteuses de handicap et notamment de handicap psychique comme des malades à interner ou à mettre de côté de la société. Aujourd'hui, on parle plus d'inclusion et de bienveillance, même s'il y a encore sans doute du chemin à parcourir. Mais du coup, c'est vrai que le milieu de l'entreprise, vous l'avez dit, c'est quand même un milieu très codifié. avec des règles qui sont aussi celles de la performance, qui sont aussi celles de la rentabilité. Et donc forcément, ça cadre pas forcément avec des gens qui, par définition, ne sont pas capables d'avoir les mêmes codes que ceux qui sont attendus de la majorité des entreprises.
C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ce chemin-là, il ne pourra être réalisé que s'il y a une bonne harmonie, une bonne adéquation, je dirais, entre les capacités de ces porteurs de handicap et les besoins des entreprises. Et donc, que tout le projet d'inclusion qu'on porte avec les structures que j'ai pu créer, là, donc Biscornus en est une, c'est un témoignage par exemple dans un métier qui est celui du traiteur, donc très concurrentiel. Donc il faut que là, il y ait une efficacité également avec une prestation de qualité démontrée auprès des clients. Voilà, donc c'est une preuve par l'exemple que ça peut fonctionner. Et puis AFUTÉ, qui veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires, eh bien, on va mettre en œuvre justement cette coordination entre, d'une part, les besoins des entreprises, de pouvoir faire travailler des gens de façon efficace, et puis les capacités de ces porteurs de handicap. On va en fait décomposer le métier de n'importe quelle entreprise en tâches élémentaires, en tâches tout simplement, et puis certaines vont être des tâches élémentaires. Les tâches élémentaires, c'est ce qui va être accessible à ces porteurs de handicap. Et on va tout représenter avec une méthode qu'on développe qui s'appelle la méthode des FUTÉ, des fiches universelles de tâches élémentaires, qui représente tous les gestes, pas à pas, avec des dessins. Et on s'affranchit comme ça de la barrière de la langue. Il n'y a pas besoin de mots, pas besoin de chiffres pour expliquer à quelqu'un ce qu'il doit faire pour faire une tâche élémentaire, par exemple dans la restauration. Éplucher une carotte est une tâche élémentaire. Et donc on décompose toutes les séquences de gestes du plan de travail, qu'est-ce qu'il y a sur un plan de travail, quels sont les outils, les ingrédients, comment on prend chacun des outils et comment on fait les gestes pour pouvoir réaliser chaque tâche élémentaire. Donc en ayant cette méthode universelle du coup d'apprentissage, eh bien ça devient accessible de devenir efficace, déjà d'apprendre pour n'importe qui. Même si quelqu'un ne sait pas lire et ne sait pas écrire, c'est pas un problème, puisqu'il aura juste à regarder les visuels des FUTÉ, donc les dessins, pour comprendre ce qu'on attend de lui. Et puis en lui montrant les gestes également, eh bien, il va assimiler la capacité de faire. Et donc nous, l'approche qu'on a, c'est qu'on décompose les métiers en gestes, en tâches, pardon, et les tâches en gestes. Et c'est cet apprentissage-là qui va rendre l'équation possible entre un besoin de rendement, de qualité, de travail, d'exécution de n'importe quelle entreprise et qui est légitime pour pouvoir être compétitif, pour pouvoir être dans cette société, et la capacité de ces jeunes-là de pouvoir réaliser ces tâches-là avec le bon niveau de rendement et le bon niveau de qualité. Donc ce qui manquait justement, c'était cette coordination entre d'une part les besoins des entreprises et les capacités de tous ces jeunes-là. Et nous, en tant que parents ou en tant que professionnels du handicap, on voit bien qu'il y a des capacités de tous ces jeunes porteurs de handicap autistes, trisomiques, dyspraxiques, etc. On les voit bien faire des choses à la maison qui sont efficaces, qui, une fois que c'est codifié, une fois que c'est organisé, eh bien ils y arrivent. Et donc c'est une question de méthode et de travail collectif. Et donc après il y a une question aussi de pouvoir se comprendre également dans la façon de faire, de se parler. Et on va accompagner justement les entreprises dans l'acquisition de ces compétences de savoir-faire qui sont finalement assez naturelles et assez simples, mais ça passe par désapprendre ce qu'on a appris dans cette société, c'est-à-dire qu'il faut ne plus avoir certains codes sociaux qui sont peut-être un peu superficiels.
Il faut déconstruire quelques manières d'être et de penser.
C'est ça, c'est tout à fait ça. La logique qu'on a, c'est exactement de dire, déconstruisons un petit peu ce qu'on a appris à l'école, puis après en entreprise, pour pouvoir reconstruire ensemble mieux et pouvoir inclure ces porteurs de handicap. Donc ce chemin-là, on peut le faire avec notamment le projet AFUTÉ, hein, en formant nos jeunes au cœur des entreprises. Donc réintroduire la différence au cœur des entreprises. On demande simplement aux entreprises de partager soit des locaux, par exemple des cuisines collectives, hein, des cuisines d'entreprise qui ne servent que le matin, et bien on va demander aux entreprises de pouvoir les partager l'après-midi pour qu'on vienne avec nos enfants porteurs de handicap et avec la méthode. Et puis en plus, on leur demande de partager le temps de leur professionnel entreprise pour pouvoir accompagner et former nos porteurs de handicap, nos enfants. Et c'est ça, c'est là où va se passer cette magie, cette alchimie, cette coordination entre, d'une part, le professionnel qui a des attentes, et puis les jeunes qui ont des envies de pouvoir travailler dans cette société, mettre ensemble ces deux publics-là, à travers des programmes de formation. Donc ça veut dire que c'est sans engagement de part et d'autre, hein. Ils travaillent ensemble pour de la formation, et bien c'est pouvoir emmener ces porteurs de handicap vers un métier, vers un avenir. Et donc c'est cette alchimie qui se crée au fur et à mesure de la formation, qui dure une année, 3 demi-journées de 4 heures dans les entreprises. Et à la fin, ce sont les professionnels qui ont compris comment ça fonctionnait d'un point de vue comportemental, savoir-être avec ces porteurs de handicap. Et puis, Affûté apporte l'expertise de la méthode avec les futés et puis avec un programme pédagogique pour que les professionnels ils puissent être à l'aise et donc travailler avec ces jeunes tous les jours dans leurs équipes.
Alors peut-être pour finir notre entretien, puisque malheureusement on n'a plus que quelques minutes, vous nous avez parlé d'Affûté effectivement, et on voit bien l'aspect important de la formation, et il y a un côté aussi évidemment théorique de repenser un certain nombre de choses, mais vous êtes aussi passé, si je puis dire, à la pratique avec Biscornu. Est-ce que par exemple dans une société comme Biscornu, qui est un traiteur, hein, donc qui a des prestataires, qui doit rendre aussi des comptes sur qui a des commandes et qui doit aussi fournir un certain type de prestations, est-ce qu'il y a une mixité entre des gens qui sont, on va dire, des cadres qui sont pas des personnes porteuses de handicap, avec comment ça se passe entre comment fonctionne l'entreprise finalement?
Bien, tout à fait. Donc c'est déjà une démonstration par l'exemple que c'est possible, puisqu'on a chez Biscornu, on est une entreprise adaptée, donc on a un agrément d'entreprise adaptée avec l'État et une obligation d'employer au minimum 55% de porteurs de handicap dans la structure. Donc on a un mélange de personnes qui sont professionnelles, encadrantes pour beaucoup, et puis des porteurs de handicap qui sont 100% commis cuisine par exemple dans le laboratoire. Cette mixité-là, c'est justement la mise en pratique de ce que je vous ai décrit avec le projet Affûté, et qu'on essaie de reproduire également dans les entreprises. Et donc au quotidien, ça veut dire mettre en œuvre des méthodes visuelles pour faire fonctionner les porteurs de handicap. Ça veut dire organiser méthodiquement chaque étape du processus de fabrication et de service, de façon à ce qu'on trouve la bonne place pour la bonne personne. Tout le monde n'est pas capable de tout faire. Donc il y a une sorte de profilage qui est fait pour chaque porteur de handicap, en disant cette personne-là, elle a une capacité motrice de tel niveau, et puis elle a un savoir-être, une attitude sociale de tel niveau, par exemple. Et c'est ce qui va permettre de faire un matching entre ses capacités et puis les besoins de l'entreprise, Biscornu, pour les mettre soit au service, si la personne elle a des habiletés sociales très fortes et qu'elle est très heureuse de pouvoir être avec des clients, des personnes, ou à l'inverse, si la personne elle a la motricité fine qui est très élaborée, très, très avancée, très poussée, mais qu'elle n'aime pas forcément être au contact du public, eh bien elle va être davantage dans le laboratoire à fabriquer des pièces cocktails. Voilà, donc c'est-à-dire que ça repose sur une bonne justesse d'appréciation entre un rôle à jouer dans une entreprise, enfin un besoin d'une entreprise, et puis les capacités de chaque personne, chaque membre de cette entreprise. Donc c'est ça qu'on met en œuvre, et comme ça a vocation à être un exemple pour d'autres entreprises, pour les inciter à passer le cap et puis à employer, à former avec Affûté et à employer demain des porteurs de handicap, eh bien, on le propose maintenant à toutes les entreprises qui veulent rejoindre ce mouvement. Donc, il y a une troisième structure qui a été créée, qui s'appelle Chaméléon, avec un S. Et Chaméléon, c'est un cabinet d'accompagnement des entreprises dans l'intégration des porteurs de handicap. Donc, c'est Chaméléon qui fait, par exemple, le diagnostic de toutes les tâches élémentaires accessibles à ces porteurs de handicap et qui propose un plan d'intégration aux entreprises, soit via Affûté, soit de la formation, soit en emploi direct, ou indirect avec Chaméléon, donc ça veut dire qu'il s'occupe de trouver les bonnes personnes pour les bonnes tâches élémentaires de toutes les entreprises. Voilà la méthode et le projet d'inclusion qu'on porte.
Et ça aiderait du coup à mettre en œuvre la loi de 2005 qui fait obligation à toute structure, collectivité locale ou entreprise d'intégrer un pourcentage, je crois que c'est 6% de personnes porteuses de handicap, mais qui malheureusement ont parfois du mal à atteindre ces objectifs, mais vous pourrez peut-être demain les accompagner.
Eh bien, en fait, c'est exactement ce qu'on espère. Aujourd'hui, en 2023, je crois que le taux officiel de travailleurs en situation de handicap dans les entreprises est de 3,9%. L'obligation légale, c'est 6%. Donc, vous voyez qu'on est encore loin. Ça fait des millions de personnes qui ne sont pas encore en emploi et qui devraient l'être, porteuses de handicap. Hein. Et pour avoir un chiffre global, en France, il y a 12 millions de porteurs de handicap, c'est-à-dire à peu près 18% de la population française. Donc vous voyez, on est à peu près à 4%, alors que c'est 18% touchés en France par le handicap, et puis 6% c'est l'obligation. Donc on a encore du chemin à faire.
Merci Olivier Tran, et c'était important, et je vous remercie d'avoir accepté de témoigner, de dire où on en est justement sur cette question de l'inclusion et des personnes porteuses de handicap avec lesquelles vous travaillez. Et malgré tout, ce que vous nous dites et ce que nous disait aussi Olivier Chapelle, ça donne aussi de l'espoir peut-être à des gens qui nous entendent et dont certains sont parfois aussi un petit peu démunis par rapport à ces situations. Merci beaucoup Olivier Tran, à très bientôt. C'était l'émission Et si on en parlait, en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.